Non? Alors, si vous avez eu le temps de l'écouter, peut-être vous avez des questions, hein. Donc, c'est un même par audio, c'est un petit peu plus, c'est une formule un peu plus ramassée que d'habitude en présentiel, hein, mais disons que j'ai sélectionné pas mal d'éléments de ce que je faisais en présentiel pour illustrer le thème Bible et morale. Hein. C'était ça mon propos. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vous avez des réactions déjà. Oui, il y a
On
une
peut
question.
le
Christine.
oui, je propose qu'on lève on lève le doigt et c'est vous qui nous donnez la parole parce que sinon ça va être compliqué.
Oui, très bien.
Ah, d'accord.
Faisons
Alors,
ça. Alors,
si
vous
j'ai
avez la
bien
parole.
merci. Si j'ai bien compris. Voilà,
Oui.
en résumé, bon, ma question synthétique, si j'ai bien compris, à la fois avec le cours 0 et le cours 1, et puis le cours d'hier, à travers des exemples dans le Nouveau Testament, la théologie morale se construit. Elle évolue, elle est quand même contextuelle, elle est liée au temps historique, comme vous l'avez rappelé concernant tout ce qui s'est passé au moment et après Vatican II. À ce moment-là, ça me pose question. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. Enfin, la théologie morale n'est pas intangible. Elle n'est pas vraie.
Alors,
Elle n'est pas dans la durée. À ce moment-là, comment est-ce qu'elle peut être chrétienne si elle évolue?
heureusement.
Schématiquement, voilà.
Alors, c'est une bonne question, c'est parce que vous avez une petite tendance entre la théologie et
N'entends pas.
le magistère, l'exprimant,
Ça saute. Entre le
l'enseignement. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez là?
Oui.
Vous m'entendez?
Oui.
Haché.
Vous m'entendez? Ça y est. Je disais que vous aviez peut-être une petite tendance à confondre la théologie et le magistère. Hein? Le magistère, l'expression magistère est une expression récente, mais on va dire l'enseignement officiel de l'Église. Alors, l'enseignement officiel de l'Église, il y en a un sur la morale, et vous avez raison, il s'est structuré dans le temps, mais il y a effectivement un enseignement officiel. Actuellement, vous le trouvez dans les catéchismes, dans les encycliques, dans tous les textes qui font autorité dans l'Église. Okay? C'est vrai en morale, c'est vrai dans tous les domaines. Il y a des spécificités pour la morale, mais enfin, donc ça, c'est l'enseignement officiel et la théologie. La théologie morale en particulier, c'est différent. C'est-à-dire la théologie, elle a une autonomie légitime, relative, mais légitime par rapport au magistère. La théologie, c'est, selon la définition la plus classique, mais elle n'est pas fausse, même si elle est très classique, c'est l'intelligence de la foi. Et donc, si vous voulez, pour entrer un peu plus dans ma définition, la théologie n'a pas pour fonction n'a pas pour unique fonction de commenter le magistère ou d'illustrer le magistère, mais la théologie, c'est une sphère de réflexion propre aux théologiens. Et donc, ça vous explique cette distinction, en effet, que du point de vue de la morale, il n'y a aucune raison de superposer l'enseignement officiel, c'est-à-dire ce que l'Église, les pasteurs légitimes ont validé, ont approuvé, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, comme on dit, et puis la réflexion des théologiens, qui est une réflexion qui a sa liberté, hein, et la liberté des
D'accord.
théologiens est garantie par le droit de l'Église.
Je
Mais
comprends.
évidemment,
D'accord.
les théologiens ne peuvent pas dire n'importe quoi. Vous voulez,
On n'entend plus.
c'est une réponse générale
Oui.
qui vaut pour la morale, mais qui vaut pour les autres domaines de la théologie. Hein?
Oui.
Et donc, a fortiori, oui, la théologie s'est structurée dans l'histoire, bien sûr.
D'accord.
Mais remarquez, c'est vrai aussi pour la doctrine, hein. Il y a une histoire des doctrines.
Hein. Oui.
Alors, on peut les superposer, mais on ne peut pas complètement les confondre, surtout pas. Alors, il y a une question là, pour moi, c'est en haut à droite de mon écran.
Merci, oui. C'est tout.
Allez-y,
très bien.
Jean-Christ.
Christine, tu continuais ?
Non.
Ok. Bon. Vas-y. Alors, donc, oui, Père, je voulais dire, effectivement, justement, ce que vous avez appelé la théologie magistère et puis la théologie des théologiens, il y a quand même une différence, ne serait-ce qu'une, c'est que la théologie du magistère, la morale du magistère, il n'y en a qu'une, par définition.
Elle.
Il y a autant de morale de théologiens que de théologiens.
Oui, à peu près, oui. Enfin, il y a des écoles, hein. Il y a des écoles de théologie, également en théologie morale, hein. Et puis, il y a des écoles de théologie qui sont présentes dans le magistère. C'est aussi des théologiens qui travaillent, heureusement d'ailleurs, c'est plutôt bon signe,
oui, il y a peut-être une interaction.
Qui travaillent pour le magistère, si vous voulez. Mais le magistère, c'est l'enseignement officiel, si vous
D'accord.
voulez. La théologie, c'est, surtout quand on est catholique, ce sont des réflexions, des propositions, parfois des audaces même, mais qui sont placées sous discernement du magistère. Mais vous avez raison de dire qu'il y a presque autant, oui, de théologie que de théologien. Enfin, ça se réduit beaucoup, vous savez, quand on se demande qui sont les grands théologiens. Il y a très peu de grands théologiens dans l'histoire. Et si on prend la période qui est la nôtre et le pays qui est le nôtre, en théologie morale, par exemple, actuellement, il n'y a pas de grands théologiens. Il y a de bons théologiens, mais il n'y a pas de grands théologiens. Mais les écoles de théologie, il y en a essentiellement deux. Ça me permettra d'ailleurs de votre question me permet de rebondir et d'approfondir un point. Il y a deux grandes écoles de théologie à l'heure actuelle. Ce sont les théologies qui défendent ou qui promeuvent l'autonomie de la personne, l'autonomie morale, la responsabilité. Et puis, il y a un autre courant qui est dit le courant, alors il a plusieurs noms, mais enfin on l'appelle souvent l'éthique de la foi, hein, l'éthique de la foi qui consiste à, si vous voulez, à imiter imiter le Christ au plus près, etc. Enfin, l'éthique de la foi qu'on dit aussi une éthique hétéronome.
Ah oui.
En opposition à l'autonomie, hein, oui. Autonomie et hétéronomie. Hein. Donc, ces deux courants-là, autonomie et hétéronomie, sont les deux courants qui, si vous voulez, qui dialoguent, hein, qui dialoguent, mais qui sont quand même assez fortement différents, on va dire. Hein. Voilà, c'est les deux grands courants. Hein. Mais on pourrait dire aussi que le magistère représente un courant de théologie à lui tout seul. On peut tout à fait dire ça. Et à ce moment-là, on va dire que c'est le courant romain de la théologie. Voilà.
Vous pouvez nous donner un ou deux noms pour chacun de ces courants de théologie vraiment très représentatifs.
Oui, bien sûr. Écoutez, pour le second courant, c'est Joseph Ratzinger. Hein. Voyez, qui est lui-même théologien. Non, l'hétéro.
Hétéronomie.
L'hétéronomie, c'est l'hétéronomie pour le second courant, c'est Joseph Ratzinger.
Oui.
Il y en a d'autres, enfin, s'en fait un. Vous voyez, c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs, hein, parce que Joseph Ratzinger est théologien, il a été pape. Donc, il est des deux côtés du. Vous voulez, du. Il a,
oui.
On dirait dans la société contemporaine.
Conflit d'intérêt.
On dirait aujourd'hui dans la société. Voilà. Il a comme un conflit d'intérêts, hein, tout à fait. Quand vous voyez par exemple les titres des livres de Ratzinger, par exemple sur Jésus, vous avez, il a cité Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Donc, si vous voulez, c'était les deux. Hein. Mais il est...
Il a disparu.
L'autonomie morale, pardon. En France, vous avez comment? En France, vous avez Xavier Thévenot. Hein, en France.
Pour ce même
Xavier
courant Thévenot.
Non, le premier courant, le courant de l'autonomie, vous avez Xavier Thévenot, qui est dans vos bibliographies,
oui,
que normalement vous retrouverez à la très bonne bibliothèque du SPIC, dès lors qu'on pourra s'y rendre. Voilà.
Oui, d'accord. Merci.
Ce n'est pas des courants à opposer, hein,
mais oui, bien sûr.
Vraiment, les principes, on va dire, structurants sont un peu différents. Hein. C'est plutôt des courants, si vous voulez, à mettre en tension, mais ce n'est pas des courants… Alors, ils peuvent s'opposer quand même sur certains sujets. C'est-à-dire, quand on arrive sur les questions de bioéthique, par exemple…
Eh oui, mais c'est bien le sujet.
C'est bien le sujet, oui. Là, ils peuvent s'opposer, hein, bien sûr. Ensuite, il y a une autre, Christine, à partir de la question de Christine et d'ailleurs de celle de Georges, il y a une autre remarque que je peux faire, c'est que, comment dire, on ne parle pas de théologie morale comme on parle de théologie de la Trinité Sainte, vous voyez, parce que la Trinité Sainte, pour répondre à votre question, Christine, ça ne change jamais. Donc la Trinité,
oui.
Bon, on en parle... Vous voyez, c'est... tandis que là, le propre de la morale, c'est de changer. Vous voyez, c'est-à-dire que la morale évolue, au fur et à mesure, par exemple, des cultures, des circonstances. Certains principes de la morale peuvent évoluer, pas tous, mais certains. Hein. Bon, et donc c'est toujours très difficile d'imaginer qu'on puisse dogmatiser une question de morale. Vous voyez, parce que la Trinité, si j'ose dire, c'est beaucoup plus facile. N'est-ce pas, le Dieu chrétien, il est un et trine depuis qu'il s'est révélé à nous, comme ça. Alors, on sait quand même que révélé sur les sujets de théologie trinitaire. Mais bon, tandis que la morale, j'allais dire, en morale, la nature est toujours la nature, mais c'est pas sûr. Hein. La nature est aussi un produit de la culture. Je ne sais pas si vous lisez en ce moment les réflexions d'Edgar Morin. Edgar Morin, qui est un très vieux monsieur maintenant, hein, qui a écrit ces jours-ci sur la crise sanitaire.
Ah oui, dans le monde.
Traverse. Oui. Edgar Morin, ouais, dans le Monde, très belle interview dans le Monde d'Edgar Morin. Je vous invite à la relire si vous avez. Bon, eh bien, Edgar Morin a écrit un grand livre sur la méthode où il parle beaucoup d'éthique, beaucoup, les principes de l'éthique. Et il y a cette phrase qui est majeure, hein, comme axiome. Il dit la nature est un produit de la culture. Ce que l'on pense être naturel a été aussi créé par la culture des hommes. Hein. Si vous voulez, il n'y a pas de nature chimiquement pure. Hein. C'est ça qu'il essaye de dire.
Hein. Oui, mais là
voilà,
aussi,
pour répondre un peu,
c'est un parti pris subjectif d'un auteur.
Oui.
Ah oui, bah vous savez, les auteurs.
Donc il n'y a pas de.
Quand on est un auteur, on écrit avec sa plume. Oui. Hein. On n'écrit pas. Voilà. Un auteur n'est pas le magistère.
Edgar Morin, effectivement, j'ai beaucoup de respect pour Edgar Morin. Ceci dit, est-ce que l'Église dirait aujourd'hui, parce que moi je pensais que c'était le contraire, qu'il n'y a pas de nature?
Ah non, l'Église ne dit pas ça. Voilà. L'Église...
Le magistère, en tout cas.
Donc ça, c'est le point de vue de Morin que j'aime beaucoup et c'est très bien, mais ce n'est pas le point de vue ni de l'Église, ni de la Bible, ni des stoïciens, ni de tous les philosophes jusqu'au moderne. En revanche, c'est le point de vue.
Non. Le problème de la nature, c'est que le concept de nature est très difficilement définissable. Hein, il est, si vous voulez, si vous prenez Aristote, chez Aristote, il y a déjà au moins une demi-douzaine de définitions de la nature, chez Aristote. Alors, l'Église, si vous voulez, l'Église, au fil du temps, s'est calée sur une définition de la nature. Et alors, c'est une définition de la nature qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, mais l'Église, si vous voulez, elle a, entre guillemets, elle a baptisé sa définition qui est naturelle, c'est qui ne change pas. C'est
on n'entend pas.
Des cultures, on pas, des circonstances. Là, vous m'entendez, là ?
Oui, mais vous avez été coupé.
Ah,
ça va.
Ah, j'ai été coupé. Bon.
Oui.
Oui, je disais que l'Église s'est calée sur une définition de la nature. Hein, et pour le magistère de l'Église, oui. La nature, c'est ce qui ne change pas. D'accord ? La nature, c'est ce qui est valable en tout temps, quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances, quels que soient les buts qu'on se donne à l'action. Donc, ça, c'est la définition à peu près constante du magistère de l'Église. Mais il est évident que dès lors que vous sortez du monde de l'Église, d'ailleurs, même chez les autres chrétiens, ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, mais a fortiori, si vous sortez du monde ecclésial, d'accord, les gens ont parfois une définition de la nature qui est tout à fait différente. Donc, c'est ce qui donne une certaine, parfois, difficulté à dialoguer, c'est que l'Église a sa définition de la nature, ce qu'on appelle en gros la loi naturelle, si vous voulez.
Oui, exactement.
Et puis, le monde, et surtout les gens, le monde sécularisé, a d'autres définitions de la nature. Bon. Là où on trouverait un point de dialogue intéressant aujourd'hui, hein, c'est dans les approches du pape François dans son encyclique qui s'appelle Laudato Si. Voilà. Il y a un concept qui essaye de faire dialoguer au plus proche nos définitions de la nature, c'est ce qu'il appelle l'écologie radicale.
Ah oui, intégrale.
Voilà. L'écologie radicale, c'est intégrale, pardon. Bonne reprise, c'est ça. Je me disais en radical, c'est écologie intégrale. Donc c'est ce concept qui fait sens, qui fait passerelle, voilà. Mais selon les univers auxquels vous vous référez, la nature a des définitions très différentes. Encore une fois, chez les philosophes, elle a des définitions très différentes. Mais je parlais des stoïciens, puisque l'essentiel de ce que l'Église a intégré des stoïciens, elle a intégré des Grecs et de la philosophie antique, nous vient des stoïciens.
Excusez-moi,
peut-être oui,
depuis Vatican II, je vais faire une boucle à partir d'Edgar Morin. Peut-être que à partir de Vatican II, si on considère ce que vous avez donné comme exemple sur par exemple Sodome et Gomorre et en expliquant la méthode historico-critique. C'est quand même relativement récent en histoire aussi au Georges Duby et au Emmanuel Leroy La Durie, un peu cette façon de concevoir les sciences humaines comme des vraies sciences, c'est-à-dire avec des points de analyse formelle.
Oui.
En fait, simplement, jusqu'à Vatican II, peut-être que, et c'est ce que vous disiez dans votre cours, l'approche théologie morale dans l'Église catholique romaine était essentiellement idéologique, c'est-à-dire qu'on faisait coller une réalité à une ligne. En quelque sorte.
Oui, ce que j'ai dit là, c'est un peu un lieu commun. Mais vous savez, les lieux communs, c'est vrai souvent. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce que j'ai cité en premier dans mon intervention audio là, hein, c'est effectivement le risque de prendre le texte comme un prétexte. On n'est pas complètement sorti après Vatican II. Hein.
Parce que si on prend l'exemple, par exemple, assez connu, que tout le monde a dû lire ou voir d'une manière ou d'une autre, c'est la controverse de Valladolid qui a été popularisée par Jean-Claude Carrère. C'est-à-dire que l'Église essayait de faire coller le monde à ses préceptes. Or, à partir de Vatican II, d'ailleurs, Edgar Morin a commencé à être popularisé et a vraiment... être connu pour sa complexité. Et d'ailleurs, je pense que le pape François a dû beaucoup lire Edgar Morin, parce que si on regarde Laudato Si, en fait, il fait de la dialogique entre les préceptes de l'Église et le monde réel.
Oui.
C'est une première.
Oui, oui.
Que le propos soit...
Oui, plutôt, oui.
Je suis soit à peu aussi près. Oui. À chercher ses arguments autant dans la vie réelle. Laudato Si est quand même... une première dans cette forme de dialogique.
Ah, je vous entends très mal.
Vous m'entendez là?
Oui.
Voilà.
Oui, ça y est, je vous entends.
La droite aussi, en termes d'encyclique, c'est quand même une première qu'un discours de magistère aille se sourcer comme ça dans la vie réelle. Ce qui montre, et c'est ce que vous avez dit, que depuis Vatican II, on a oublié, la morale chrétienne évolue, etc., et se cherche, on arrive quand même à l'aboutissement de ça. Et la nouveauté, par rapport aux autres encycliques, c'est que c'est le premier pape qui ne soit pas européen. Et en géographie, depuis que les sciences humaines, entre guillemets, ont évolué, on a appris à penser le monde selon ses points de vue. C'est-à-dire qu'un Brésilien ne pense pas le monde de la même manière qu'un Russe. Donc, en fait, c'est en cela que la complexité et la morale évolue. C'est qu'elle intègre toute la complexité au sens des regards morins. C'est qu'il n'y a pas de... Il y a toute l'incertitude de la prise en compte de l'ensemble
des
problèmes. On accepte ça.
C'est exact. Alors, on n'a quand même pas attendu... Oui, mais je suis d'accord dans l'ensemble avec ce que vous dites. Je mettrai quand même deux petits bémols. Le premier, c'est qu'il faut vraiment ne pas considérer Vatican II comme le concile 2.0, si vous voulez, de l'Église, à partir duquel, voilà. Hein, comme si avant il n'y avait rien eu. Hein.
D'accord.
Ensuite, c'est pareil pour François. C'est-à-dire, vous avez parlé de dialogue. Paul VI a écrit de très belles choses sur le dialogue des cultures, où l'Église et le dialogue, c'est sa formule à lui. Bon. Donc, mais alors, là où je vous suis de façon générale, ça c'est vrai, Vatican II a marqué un tournant considérable, c'est-à-dire parce que Vatican II a voulu une Église ouverte sur le monde, hein, et donc on a pu dire que Vatican II était le seul concile qui n'était pas doctrinal, mais pastoral. C'est-à-dire, vous savez que les conciles ont été convoqués dans l'histoire de l'Église pour réagir à des erreurs de... Le Vatican II n'a pas réagi à une erreur. Vatican II n'a pas été un concile dogmatique, c'était un concile pastoral. Et donc ça, c'est vraiment le très très gros tournant. Mais dire que c'est un tournant, c'est vrai, mais ce n'est pas une rupture. Hein. C'est impossible d'ailleurs. Il ne peut pas y avoir de rupture dans la tradition. Par contre, il y a évidemment des accents différents, des points qu'on n'avait pas vus, etc. Mais ça, c'est autre chose, vous voyez. Mais, alors, c'est aussi, si vous voulez, en cela que c'est un concile qui a déjà beaucoup vieilli, peut-être plus que les autres, parce qu'il est très dépendant, je l'ai dit au tout début, je crois, du contexte des années 60, du siècle dernier. Hein. Et c'est aussi pour ça que la tradition ne s'arrête jamais, elle continue. Donc l'encyclique que vous avez citée de François, c'est le développement le plus récent sur la question écologique. Mais la question écologique n'a pas commencé avec François. La question écologique, c'est un peu Vatican II, oui, mais c'est surtout Paul VI.
Oui.
Paul VI, Jean-Paul II, c'est monté en gamme.
Progression.
Oui, c'est monté en gamme avec Paul VI, Jean-Paul II et François. Et là, d'ailleurs, sur la question d'écologie, comme d'ailleurs sur la question économique, puisque nous sommes en pleine crise économique, enfin même la crise arrive et devant nous, hein, sur l'économie comme sur l'écologie, on peut dire que l'Église est prophète. Hein. C'est-à-dire que le corpus doctrinal de l'Église sur l'écologie et sur l'économie il est plus ancien que sur l'écologie, est un corpus, si vous voulez, prophétique, c'est évident. Oui, Georges.
Oui, ben, je voudrais revenir un peu sur cette histoire de nature. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui remettent, il y a pas qu'Edgar Morin qui remettent en question la nature, qui mettent en avant plutôt la culture. Mais finalement, je me demande si on n'admet pas la nature en tant que telle, et on dit ben, finalement, c'est la culture qui détermine les choses, les comportements, etc. est-ce qu'il peut y avoir vraiment une morale? Parce que sinon, chacun, ça peut aller vers le relativisme complet. Donc,
oui.
N'a-t-on pas besoin d'une certaine manière de quelque chose d'objectif pour s'accrocher? Sinon, bon, ben, je dis, voilà, moi je me comporte de cette façon, c'est ma culture, c'est comme si, c'est l'autre, il se comporte de telle façon. Donc, on est absolument dans le relatif. Donc, question, peut-on avoir vraiment une morale partagée s'il n'y a pas de nature?
Il n'y a aucune raison d'opposer les deux. C'est-à-dire, ce qui est partageable, c'est ce qui est universel.
Justement.
Hein, voilà.
Mais qu'est-ce qui est donc, universel alors?
Eh bien, le décalogue, pour une part, je m'explique.
Oui.
Alors là, on aborde un sujet qui est loin du cours d'aujourd'hui. C'est intéressant de voir d'ailleurs que la visioconférence nous fait... Mais on va revenir un peu au cours que je vous ai proposé. Oui. On va prendre l'exemple du décalogue, si vous voulez. Hein. Le décalogue, donc les 10 commandements. Ça, c'est un très bon exemple parce que ça va nous faire réfléchir sur un tas de trucs dans différentes directions. On prend le décalogue. Donc, le décalogue, vous êtes d'accord avec moi, Cécile B2000, hein, les 10 commandements. Facile. Bon. On ne parle plus tellement des 10 commandements. Quand on veut être très up-to-date et qu'on a fait le kiff, hein, on va dire c'est les 10 paroles. Les 10 paroles. Hein, pourquoi ? Parce que c'est plus juste, si vous voulez. Ce n'est pas simplement des commandements qui s'imposent. C'est Dieu qui se révèle. Bon, on les 10 paroles. Cela dit, dans la... Les 10 paroles, nous, on peut être entre intello, on peut se le dire, mais quand même, les gens parlent toujours des 10 commandements. Et le décalogue, ils ne savent même pas ce que c'est. Hein. Bon. 10, déca, logos, la loi, le discours, la parole. Bon. Alors, le décalogue. Vous prenez le décalogue, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander les 10 commandements, mais essayez de vous les remettre dans la tête. Qu'est-ce qu'on sait des 10 commandements, hein? On sait que c'est un texte. Ces 10 paroles, si vous voulez, ne sont pas tout à fait spécifiques à la Bible. C'est-à-dire que vous trouvez des textes, oui, des codes qui existent, qui préexistent, etc. Oui. etc. Bon. Qui ressemblent, qui sont analogues, qu'on peut comparer, etc. Il se trouve néanmoins que les 10 commandements sont au cœur de la révélation biblique. Oui. Ah, c'est extrêmement intéressant. Ça pourrait être un paradoxe, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'au cœur de la révélation biblique, il y a, et ce n'est pas seulement vrai dans les 10 commandements, c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de textes, il y a des éléments extra-bibliques. D'accord ? Les éléments extra-bibliques, d'ailleurs, Georges, sont des éléments naturels. Hein, naturels, c'est-à-dire qu'il est dans la nature de l'homme. Hein, parce que la question de la nature, comment on peut la formuler ? On peut la formuler de la manière suivante. Qu'est-ce qu'il est naturel de faire ou de vivre? Alors, les 10 commandements, vous pouvez les énoncer de la manière suivante. Hein, non pas « tu ne tueras pas », etc. Mais on peut les énoncer en disant « il est naturel de ». D'accord? Vous pouvez faire le test et vous essayez d'énoncer les 10 commandements de la manière que je viens de dire. Il est naturel de ne pas mentir. Il est naturel de ne pas tuer. Il est naturel de ne pas capter la femme de son voisin. Il est naturel de ne pas commettre d'actes impurs. Bon. Alors, par exemple, si je prends « il est naturel de ne pas tuer », ce qui est très intéressant, et ça rejoint, je pense, la question de Georges, c'est que ce commandement qui est au cœur de la Bible, qui est au cœur de la révélation de l'âme. C'est vraiment le cœur de cible, enfin, c'est essentiel. C'est ce qui définit à la fois la première alliance et la nouvelle alliance. En fait, ce commandement, il est partout présent. C'est-à-dire, il est dans la nature des hommes. Et donc, la Bible, dont l'auteur est Dieu, je vous le rappelle, a placé en son sein des commandements sacrés, si vous voulez, qu'on retrouve ailleurs. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui nous permet, à nous qui sommes chrétiens, de dialoguer avec les hommes et les femmes qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas nos convictions. Alors, normalement, mon raisonnement devrait un peu vous chagriner, parce que ce que je dis est vrai pour, par exemple, l'interdit du meurtre. Je pense qu'il n'est pas besoin d'être chrétien, juif, etc., pour se dire que tuer son voisin, ce n'est pas une bonne idée. Hein. Mais tu honoreras le nom du Seigneur. Ah, c'est une autre affaire. Nous qui sommes chrétiens, on a envie de se dire, et on y croit, il est naturel d'honorer le nom du Seigneur.
Bien sûr.
Eh, mais pour... ça, vous ne pouvez pas le demander. Bah,
exactement, donc ce n'est pas universel.
Voilà.
Donc ce n'est pas universel.
Voilà, mais, voilà.
Non, c'est et pas
donc,
universel.
Voilà, et ce n'est pas universel. Par contre, et donc, on est au cœur du sujet que... Voilà, voilà. Et donc, on est au cœur du sujet que vous avez proposé dans votre question, c'est-à-dire, il est naturel de faire un tas de choses, et puis, il y a des moments où on se sépare de gens qui pensent que ce n'est pas naturel d'eux. Et donc, dans le décalogue, vous avez déjà des commandements qui révèlent des convictions, qui relèvent des convictions, hein, de ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs une éthique de conviction, et puis des commandements qui sont partageables par tous les hommes, quelles que soient leurs convictions. Alors, l'intérêt de la nature, et l'intérêt de ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est de définir une plateforme commune. Absolument. Avec les hommes et les femmes qui ont d'autres convictions.
Tout à fait. Bon.
Cette plateforme, elle marche très bien. Quand vous êtes dessus, hein, avec des hommes et des femmes qui pensent comme nous, c'est parfait. Sauf qu'il y a des coins de la plateforme où ça ne marche plus, hein, et où on perd pied. C'est-à-dire, les hommes et les femmes de notre temps, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas en Dieu, tuer son prochain, non, à peu près non. Bon, mentir, on apprend aux enfants à ne pas mentir, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, enfin, j'espère, etc. Vous voyez, c'est, bon. Mais ce n'est pas vrai pour tout. C'est-à-dire, il y a des commandements de Dieu ou de l'Église, de Dieu ou de l'Église, dont on va penser pour nous qu'ils sont naturels, hein, qu'ils ont été donnés par Dieu. Mais ça, on ne peut pas le demander à tout le monde parce que la plateforme, elle a ses limites, si vous voulez. Et ce qui coince parfois avec les éthiques sécularisées qui sont les nôtres, dans nos sociétés en tout cas, dans nos sociétés, occidentale, c'est par exemple le champ de la bioéthique, hein, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc là on va avoir du mal à se retrouver sur une définition de ce qui est naturel ou pas. Hein. Encore une fois, ça suppose d'ailleurs que là, on est en train de réfléchir avec l'idée que la nature, c'est ce qui ne bouge pas, c'est ce qui ne change pas, hein, c'est ce qui est valable partout. D'accord ? Mais je donne toujours cet exemple parce qu'il vient d'Aristote et que c'est Aristote qui définit la fleur. Qu'est-ce qu'une fleur, dit Aristote? Une fleur, c'est ce qui... Il est dans la nature de la fleur de naître, de grandir et de mourir. Ça veut dire que la nature d'une fleur, c'est d'avoir une histoire qui change. Donc, vous voyez, la nature, notre définition habituelle de la nature, celle que le magistère met en place tout le temps, c'est plutôt ce qui ne change pas, ce qui est pérenne.
La fleur qui change, ça,
c'est pérenne.
La nature elle-même comprend le fait que la fleur change.
Oui, bien
donc,
sûr.
Oui, c'est ça. Il est dans la nature de la fleur existe. De changer.
Donc la définition de la nature, c'est ce qui ne change pas. C'est peut-être cette définition qui pose problème. En revanche, dire qu'il y a...
C'est possible, oui.
Il y a une nature du chat, une nature de l'homme, une nature de l'arbre, etc. Ça, il y a des vérités qui sont valables pour ces êtres-là.
Oui, oui. Alors, c'est d'autant plus compliqué que, si vous voulez, on peut parler de la nature des animaux,
oui.
Mais c'est quand même très différent de parler de la nature humaine. Hein, parce que la nature humaine conjugue les questions de liberté, de responsabilité, etc. Et donc, ce qui vaut par exemple pour la nature des animaux n'est pas forcément valable pour la nature humaine.
Bah, heureusement, hein,
voilà,
heureusement, mon père, mais nous sommes aussi des animaux. Bah, d'accord.
Nous sommes mais des animaux rationnels. Des animaux rationnels.
Nous avons en plus la liberté. Ça fait partie de notre nature.
Oui, l'intelligence. Liberté, responsabilité et volonté. Oui, oui.
Exactement.
Y a-t-il d'autres questions ?
Donc, ça fait bien partie de notre nature.
Ça fait partie de notre nature.
Je ne sais pas. Si je remets en cause ça, c'est plus la peine de parler de mon cause.
Ah, mais je crois que personne ici ne vous invite à le remettre en cause. Non.
Oui, j'avais peut-être une petite question au sujet du cours que j'ai écouté ce matin. Vous avez défini un peu la morale de Matthieu, de Paul. Qu'est-ce que vous pensez de Marc ?
Oui,
je n'avais
pas parlé de Marc.
Je n'ai pas parlé de Marc parce que c'est l'évangile, c'est pas pour le déprécier, mais c'est l'évangile le plus court. La question de Marc, c'est plutôt la question du miracle et de la guérison. C'est avant tout l'évangile du miracle et de la guérison. Il n'a pas retenu mon attention parce qu'il est moins peut-être saillant que les autres du point de vue de la morale. Déjà que chez Jean, j'ai eu du mal à trouver. Parce que je pense que chez Jean, il n'y a pas tellement de morale. C'est plutôt la communauté du disciple. Bon, voilà. Disciple, autour du disciple bien-aimé, c'est... Voilà. Mais voyez, si on essaye de croiser les différentes questions, c'est-à-dire la question de Raphaël et la question de Christine et de Georges, il faudrait voir, justement, c'est intéressant, dans les épîtres de Paul, les plus anciennes jusqu'aux plus récentes, ce qu'il en est de la question de la nature. Ah, c'est un énorme dossier de de l'exégèse. Et donc, ça, si vous avez un exégète préféré, vous pouvez lui poser la question. C'est une colle, mais en général, ils ont bien bossé la question, les exégètes. C'est-à-dire la question de la nature chez saint Paul. C'est un dossier. Donc, le mot grec, c'est physis, qui a donné physique en français. D'ailleurs, c'est le mot d'Aristote, la physis, la physique. Bon, voyez que quand on a même le mot physique en tête, on pense pas toujours à se dire que c'est la nature, mais c'est ce mot-là. Alors, la destinée du mot nature chez Paul, le mot physis, ce mot-là s'est baladé, si j'ose dire, dans toute la théologie. On le retrouve chez saint Augustin, vous voyez, des siècles et des siècles après, et il est à nouveau centré au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, chez saint Thomas d'Aquin, avec la définition de ce qui est de la loi naturelle, du contre-naturel, etc. Et on le retrouve dans les textes les plus récents du magistère, en fait. C'est intéressant, d'ailleurs, cette question de la nature, parce que c'est pas vraiment une question de l'évangile, mais c'est une question de Paul. C'est beaucoup de questions de Paul. Alors, vous savez, la fameuse phrase qui consiste à dire que c'est Paul qui a fait le génie du christianisme, la question de la nature, elle n'est pas si présente que ça dans les évangiles, mais c'est un focus de Paul autour d'une thématique qui est celle de l'alliance, c'est-à-dire de la création. Il les créa hommes et femmes. Il est dans leur nature de s'unir, etc. Et donc, vous avez, à partir de cette théologie-là, de la création, vous avez une théologie ensuite du couple et la théologie de l'Église, Christ époux, Église épouse. Bon, c'est un déploiement théologique, un arbre, si vous voulez, de la théologie considérable. Et le concept de nature, donc la physis, c'est un des concepts clés qui est plus paulinien, je trouve, que
préparer l'évangile. C'est inspiré du prophète Osée chez Paul.
Ah là, il y a une question, mais je ne sais pas de.
C'est moi.
Vous m'entendez ? Ah, c'est Guillemette, oui.
Guillemette. Cette question-là, c'est inspiré du prophète Osée chez Paul. Du petit prophète.
La question de... Oui. Oui. Et donc, oui, c'est ce... Oui, j'ai osé, oui.
Et du couple ? et de la nature, non, aussi.
Oui, bah, c'est, alors chez Osée, c'est sous un angle très particulier. Hein. C'est la théologie de la fidélité, oui. La fidélité de l'alliance, etc. Oui. Là, je ne vous entends plus du tout, là.
Ah, mais je ne parle plus.
On ne dit plus rien.
Ah, d'accord. C'est bon, donc c'est normal. Donc, c'est normal. Donc, jusque-là, y a-t-il encore... Bon, il est 3 ans moins le quart, mais il y a peut-être encore l'une ou l'autre question.
Je ne sais pas si on aura le temps, mais finalement, effectivement, oui. À partir du moment où dans la Bible, il y a une multiplicité de livres, il est normal de trouver des différences. En revanche, oui. La question qu'on peut se poser en termes de morale chrétienne, si je me limite au Nouveau Testament,
oui.
Qu'est-ce qu'on peut avoir comme morale ou comme éthique chrétienne qui soit valable ? C'est-à-dire que de la même manière que Luc s'est posé la question... Qu'est-ce que c'est que le chrétien ? Est-ce que lui qui pouvait poser cette question pour lui ? Maintenant, nous qui avons l'ensemble des livres du Nouveau Testament, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que d'être chrétien ? Est-ce qu'on peut avoir une éthique ? Les différences existent, c'est une évidence, et tant mieux, mais est-ce qu'il y a un point commun ?
Alors, votre question va me permettre de faire la transition avec ce que je vais essayer de dire après, quand je vais parler des pères de l'Église et surtout de saint Thomas d'Aquin. En fait, le propre de la morale chrétienne... Alors, je vais commencer par un petit apophtègme personnel que je donne à chaque fois à mes cours et que j'énonce de la manière suivante. Il ne faut pas laisser la théologie morale aux moralistes. Je m'explique. La théologie morale, d'abord la théologie morale, il faut se dire qu'elle a eu du mal, beaucoup de mal dans l'histoire, à être reconnue comme une théologie à part entière. Très très longtemps, et je vais vous expliquer pourquoi dès la prochaine fois, la morale s'était considérée comme une annexe. La vraie théologie, c'était parler de la Trinité. C'est-à-dire des considérations, si vous voulez, beaucoup plus élevées que la morale. La morale, c'était une pratique, si vous voulez. On réfléchissait sur une pratique, mais surtout une pratique. Bon. En réalité, quand je dis qu'il ne faut pas laisser la théologie morale, pourquoi la prochaine fois, de séparer, et je pense que ça répond quand même à la question de Georges, de séparer la morale de la grâce. Ou si vous voulez, de séparer la morale de l'amour. Parce que quand j'ai entendu votre question, j'ai pensé, mais la réponse, il l'a déjà. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Bon, ça, c'est de la morale, ce commandement.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas que de la morale, heureusement. Ce n'est même pas d'abord de la morale. C'est un don de Dieu. C'est théologal, comme on dit. Hein. C'est un don de Dieu, donc c'est une vertu théologale. Ce que je veux vous, en répondant à la question de Georges, ça me permet d'élargir pour tout le monde et d'introduire au suivant. On ne fait jamais de la morale quand on est chrétien pour faire de la morale. On fait de la morale parce qu'elle est connectée, elle est même, si vous voulez, elle s'appuie sur la grâce, elle est mue par la grâce, elle est, je dirais, presque conditionnée par la grâce. Hein. Le sens de la morale est une morale appuyer sur les béatitudes. Le grand texte moral du Nouveau Testament, c'est les béatitudes, hein, qui parlent de douceur, de paix, de justice, etc. Donc, la morale n'a de sens quand on est chrétien que lorsqu'elle est référée au don de Dieu, à la grâce de Dieu. Je dis ça parce que on a déjà ça chez saint Paul, hein, très bien, la dialectique de saint Paul entre grâce et loi. C'est la loi qui mène au péché, dit saint Paul. Seule la grâce sauve. Alors, vous savez, ce qu'on a déduit nos frères protestants après Luther, cette connexion, mais en principe insécable, entre le don de Dieu, l'amour et la morale.
Ah, ça ne marche plus.
Ça, c'est la grande originalité du christianisme, ou pas dans les autres courants et grandes traditions religieuses du monde. Alors, et je vais essayer de vous montrer dans la petite histoire que je vais vous faire, la théologie morale, que ce lien vivant entre l'amour ou la grâce, c'est à peu près la même chose, hein, et puis la morale en tant que loi, si vous voulez, hein, ce lien-là a été à plusieurs reprises coupé. C'est-à-dire, on s'est habitué à faire de la morale d'un côté, réduite à des lois, et puis à laisser le don de Dieu à la grâce, aux théologiens savants qui nous parlent de la grâce, de l'amour de Dieu, etc. Mais c'est un lien vivant qui est biblique, qui est patristique. On va parler des pères de l'Église la prochaine fois. C'est un lien vivant. Chez les pères de l'Église, la morale et l'amour ne sont jamais séparés. Jamais. Chez saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, jamais. Et c'est après saint Thomas d'Aquin que les choses ont commencé, c'est-à-dire après le XIIIe siècle, surtout au XIVe siècle, que la morale et la grâce ont été séparées. Et je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer les conséquences gravissimes pour la morale de ce c'était la dérive des continents, si vous voulez, après saint Aquin, dès le XIVe siècle. Je vous dirai pourquoi. Voilà. Ça, c'est pour vous donner un petit peu envie de nous retrouver pour le prochain cours, et où j'aurai l'occasion de vous présenter quelques points saillants de la morale des pères de l'Église, et puis des pères de l'Église.
Ah.
Le théologien de l'Église a ce titre, à savoir saint Thomas d'Aquin. Oui.
Justement, est-ce que...
une dernière question peut-être.
Oui, juste avant le cours de la semaine prochaine. Si on veut regarder un petit peu quelque chose sur les pères de l'Église dont vous allez nous parler, quels sont-ils?
Alors, les pères de l'Église, on considère que font pas...
allez nous parler en priorité.
Ah, je vais parler justement de Jean Chrysostome, hein, mais essentiellement Augustin et Chrysostome, d'accord, bien entendu, parce que Augustin, c'est le père latin le plus, c'est celui qui a eu le plus d'influence. Et pourquoi c'est celui qui a eu le plus d'influence? Parce que c'est lui qui a organisé le débat entre la grâce et la loi. Ou la grâce et la morale, si vous voulez. C'est lui, et c'est lui qui a servi à Luther, hein, enfin d'abord, avant Luther, qui a servi à saint Thomas d'Aquin, mais dans un genre très différent. Vous verrez que saint Thomas d'Aquin, c'est encore différent, et puis à Luther, etc. Mais c'est vraiment... Alors, si vous avez du temps, si vous avez chez vous du Saint-Augustin... Je vous lis à la Cité de Dieu d'ici la semaine prochaine. Je vous
ça va être dur quand même.
Hein, va être dur.
Oui.
Mais par exemple, si vous avez un très beau, si vous l'avez jamais fait, mais à mon avis vous l'avez déjà fait. Enfin, si vous l'avez jamais fait, comme on est dans un temps de retraite spirituelle aussi, hein, le pape François dit beaucoup ça. Profitez du confinement pour voilà. Eh bien, si vous avez parfois, on a ça dans nos bibliothèques. Le commentaire, vous le trouvez, je pense, sur Internet aussi, même par extrait, le commentaire de la première épître de saint Jean. Voilà. C'est un petit trésor de vie spirituelle. Et vous verrez que dans ce commentaire de saint Augustin, vous avez, c'est une petite merveille, parce que vous avez tenu ensemble très bon, la prédication de saint Augustin et puis le sommet de la vie chrétienne, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain, le Seigneur est ton prochain comme toi-même. Donc si vous avez bien entendu les confessions, et les confessions c'est j'en parlerai pas tellement parce que les confessions c'est l'itinéraire personnel de saint Augustin, c'est très intéressant, c'est même un des trésors de l'humanité, ce livre, rien que ça. Mais c'est un peu moins immédiat. intéressant pour notre cours. Hein. Mais enfin, voilà. Et Jean Chrysostome, parce que Chrysostome, c'est peut-être le père grec le plus influent, là encore. Hein. Et on retrouve d'ailleurs dans la somme de théologie de Thomas au XIIIe siècle, il cite beaucoup d'autorités, mais il cite de manière massive Saint Augustin et celui qu'il appelle Jean de Damas, le Damasène. Et voilà.
D'accord, voilà. Merci.
Voilà. Eh bien, écoutez, Jean-Yves, c'est bon, on en reste là. Ben, c'est bon. Et puis, on fonctionne comme ça pour la semaine prochaine. Alors. C'est la semaine prochaine, oui, non ?
Oui.
Ben, c'est ça. Donc, avec Jean-Yves, aura droit à son préceptorat. Et puis, après, on continuera à dialoguer. Voilà. Vous ne trouvez pas le temps trop long, voilà, et puis que cette formule vous convient, c'est pas si mal, je trouve, en ces temps un peu bizarres. Hein. Voilà.
Oui, c'est bien.
Bon. Essayez peut-être de le faire savoir dans vos groupes, ceux qui n'arrivent pas à se connecter encore. Il y en a à peu près la moitié qui ne se connectent pas. Ce serait bien de savoir si c'est parce qu'ils n'ont pas le temps ou si c'est parce que...
Ils sont peut-être trop loin pour se connecter, je ne sais pas. Parce qu'il y a des élèves qui ont même des scolaires, hein, qui n'ont pas toujours les bonnes connexions. J'ai beaucoup de collègues profs qui me disent ça.